K-U-T.
What you say?
C-K-U-T.
90.3 FM. Kicking it, kicking it. Give them pay problem. Oh.
Sur CKUT 90.3 FM. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ce matin, Marc-André est seul au micro, mais il a un invité spécial, un réalisateur de film qui s'appelle Pierre-Philippe Chevigny, qui vient nous présenter son film Richelieu. Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ben, très bien. Merci d'être là ce matin avec nous.
Merci de me recevoir.
Moi, j'ai vu ton film, Richelieu, il y a quelques semaines au Cégep Gérard Godin. Et il y avait une séance de questions après le film et on a discuté. Et c'est là qu'est venue l'idée de t'inviter. Parce que ton film, c'est un film, on peut-tu dire coup de poing?
Ben, je pense que oui, c'est souvent un qualificatif que les gens utilisent pour en parler. Fait que j'imagine que ça le décrit bien.
Ben avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, on va parler. T'as réalisé des courts métrages. T'as réalisé Carré de sable, Rebelle, Tala. Est-ce que c'est comme une carte de visite que t'as besoin de faire avant de présenter à une productrice ou à la SOCAN ou peu importe des courts métrages? Comme un démo avant de faire un gros film.
C'est un peu la voie privilégiée. En tout cas, au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup. On est encouragé à faire du court-métrage pour essayer, apprendre, surtout faire des erreurs. Là, parce que tu veux pas arriver avec un budget de 2-3 millions puis faire des erreurs de base là, que tu devrais apprendre en faisant d'abord des courts-métrages avec tes amis. Là. Okay. Moi, j'ai commencé en faisant des petits courts-métrages à l'école, à l'université, au cégep, même. Le but, c'était pas nécessairement de faire des bons films là, quand tu commences. Je pense que le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'apprendre, tu sais, puis
d'expérimenter,
puis de comprendre comment ça marche, de faire des tests. Puis, mes premiers films, Carré de sable que tu mentionnes, je pense que ça correspond pas mal à ça. Là. C'est un film que je montrerais même pas à ma mère aujourd'hui. Mais c'est une période d'apprentissage qui est importante. T'sais. Tu veux faire des erreurs à ce moment-là parce que tu veux pas les refaire plus tard. T'sais.
Puis, tu parles de ton parcours. Au cégep, tu étais dans un profil cinématographique?
Oui, j'étais au cinéma au cégep de Saint-Laurent. Puis après ça, j'ai fait le bac puis la maîtrise à l'Université de Montréal.
OK.
L'Université de Montréal, c'est un programme qui est plus en études cinématographiques. C'est pas comme à Concordia où c'est la production cinématographique. Fait qu'on regarde des films, on analyse des films. Mais il y a un volet pratique aussi à l'intérieur de ça. Puis moi, pendant que j'étais à l'Université de Montréal, je faisais beaucoup de projets on the side, là, si tu veux. Là,
du corpus
c'est ça. À tous les étés, je tournais des courts-métrages avec notre gang de l'Université de Montréal. C'est là que j'ai rencontré ma productrice, qui est encore ma productrice aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je pense que c'est un parcours d'apprentissage assez standard. Là.
Puis, est-ce que tu allais plus en réalisation ou c'était scénarisation, réalisation?
C'était toujours les deux. Moi, depuis que je suis tout petit, que je sais que je veux faire des films. Là. Je veux les écrire, je veux les réaliser. Fait que... Ouais, dès le cégep, en fait, j'essaie de me positionner comme ça, comme réalisateur, comme scénariste, puis même chose à l'université. Fait que j'ai écrit pas mal tous les films, puis je les ai réalisés aussi.
Ouais, félicitations. J'invite les gens à aller voir, même si tu dis que tu veux pas présenter à ta mère Carré de sable, mais ils sont sur Vimeo.
Ouais, tous mes cours sont sur Vimeo.
Ouais, c'est ça. Fait que Carré de sable, t'as un casting en or, t'as Sylvie Moreau,
ouais.
Puis t'as Benoît Gouin. Puis tu as un enfant, je sais pas le nom de l'acteur.
Josquin Beauchemin.
Excellent. Tous les trois sont excellents, sont hyper crédibles. On croit, on rentre dans le vif du sujet. Il n'y a pas de préliminaire, c'est direct dans l'action. Peux-tu me parler un peu de ce film-là sur la. Moi, je connaissais rien sur la loi sur les mines, les exploitations de terrain. C'est quoi, au juste?
Ben là, c'est drôle parce qu'il vient juste d'y avoir un long-métrage documentaire qui vient de sortir là-dessus. Moi, c'est inspiré un peu de ce qui s'était passé à Malartic, en Abitibi. Là, c'est, dans le fond, il y a tout un village qui a été exproprié pour une mine. Puis il y a un propriétaire qui a refusé de céder. Parce qu'en fait, la loi sur les mines, c'est une vieille loi là, qui date du genre du 19e siècle, qui permettait autrefois de entre guillemets, « claimer » la ressource minière en dessous d'un terrain. Même si tu n'es pas propriétaire de ce qui est bâti par-dessus, tu peux être propriétaire de ce qui existe en dessous. Fait que tu as le pouvoir d'exproprier les gens, dans le fond, pour aller chercher la ressource minière. Okay. Puis le territoire complet du Québec, maintenant, est pas mal claimé. Là. Il y a un site Internet qui s'appelle Click and Claim. Puis c'est des prix ridicules. Là. C'est comme 10 sous l'hectare, une affaire qui n'a pas de bon sens. Puis il y a moyen de prendre possession de la ressource naturelle, même si tu n'es pas propriétaire du terrain. T'sais. Puis c'est comme ça que le nom a été colonisé beaucoup. Là.
Wow.
Fait que c'était un peu inspiré de ce cas-là. Il y a un gars qui avait refusé de vendre sa maison, puis ils ont fini par venir le chercher de force, le sortir de là. Puis bon, le film, il est vraiment... Moi, je suis pas fier de ce film-là particulièrement. Là. C'est un film que j'ai fait quand j'avais genre 20, 21 ans. Mais c'était le début, en tout cas, de mon intérêt pour la justice sociale, pour les questions politiques. Puis tous les films que j'ai fait après sont inspirés d'enjeux sociaux.
Ouais.
Puis c'est là que ça a commencé.
Ben, c'est un super bon commencement. Moi, j'aime bien ça, la partie justement que l'homme qui se barricade, ben, qui est joué par Benoît Gouin, il se barricade dans la maison, qui veut le mettre à terre justement pour l'expropriation, puis il joue de l'harmonica.
Ouais.
Dans tes films, il y a de la musique, mais il n'y en a pas trop. Puis je trouvais ça bien ou spécial que la musique vient... tu sais, des fois, c'est de la musique in situ, là, je sais pas comment la décrire,
qui est pas extérieure. On dirait intradiégétique versus extradiégétique. Okay, intradiégétique, c'est comme la musique qui joue à radio, puis extradiégétique, ça serait comme la musique d'un compositeur, John Williams, qui fait de la musique, c'est que les personnages n'entendent pas dans la vraie vie, mais que le spectateur entend, puis qui est là pour guider l'émotion du personnage, du spectateur. Puis moi, il y a rarement de la musique extradiégétique. C'est toujours de la musique qui est jouée pour de vrai à la radio ou que quelqu'un dans la scène joue de la guitare. Il y a très peu de compositions. Il y en a un peu dans Richelieu, mais c'était, je pense, la première fois que je faisais ça, que je mettais de la musique là, par-dessus un espèce de score, comme on dirait. Là,
dans le climax du film. Là, pour
certaines scènes précises. Ouais. En fait, j'avais même pas l'intention de faire ça. C'est au montage qu'on a un peu trouvé qu'à ces moments-là, ça prenait de la musique. En fait, des fois, malgré mon intention de ne pas vouloir en mettre, parce que moi, ça, je trouve toujours ça un peu invasif, la musique extra-diégétique. Là, tu es dans une scène, puis là, tout d'un coup, tu entends du piano, de la guitare qui commence à jouer. C'est quoi? D'où c'est que ça sort? Puis là, c'est pas un absolu ce que je dis, parce qu'il y en a qui le font, puis c'est super. Mais moi, quand je fais des films, je trouve tout le temps ça weird, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que la musique dans Richelieu, c'est de la musique bien abstraite. On reconnaît pas les instruments, c'est pas, t'entends pas un violon ou un piano, c'est vraiment du bruit. Puis c'est comme purement abstrait, c'est juste l'émotion qui parle, tu sais. Ça pourrait presque être des bruits de machine, tu sais, parce qu'on est dans un milieu industriel, puis tout ça. Fait que c'est ça. Je m'en vais avec ça.
non, mais je te comprends, je te suis. Merci de répondre à la question. Parce que ça donne peut-être aussi un aspect plus. OK, c'est des fictions, tes films, mais en tout cas, Carré de sable puis Richelieu. Mais ça donne presque l'impression que c'est un documentaire, vu qu'il n'y a pas justement de la musique pour mettre des violons pour qu'on se mette à pleurer ou que l'émotion soit plus marquée au crayon, au feutre, highlighter. Là,
c'est ça. Parfois, dans Richelieu, la musique, elle vient jouer un peu ça, là, venir pousser l'émotion, mais je veux, quand je le fais, il faut que ça soit vraiment significatif, puis c'est pas à toi et scène qu'il y a comme une montée musicale pour venir te faire, pour venir jouer avec tes émotions. C'est vraiment quand c'est important puis payant pour le récit.
Mais ben aussi, t'en as fait plusieurs, là. T'as fait C'est Rebelle, en 2019?
2019, oui.
C'est-tu Recrue ou Rebelle? C'est quoi?
En anglais, c'est Rebel. Ouais. Okay. Puis en français, c'était Recrue. C'est juste parce que Rebelle, c'était le nom aussi du film de Kim Nguyen. Puis il y avait un film de Disney qui s'appelle Brave en anglais, qui s'appelait Rebelle aussi. Fait qu'en moi, mon titre préféré, c'était j'aurais voulu appeler ça Rebelle, en fait, mais en français, ça ne marchait pas. Fait qu'on a utilisé Recrue, puis en anglais, c'est Rebel.
OK. Ça, nous, on se bidonne souvent à l'émission sur les traditions titres. Françaises. Ouais. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça?
Ouais.
Anyway. Là-dedans, tu as Édouard, qui est un jeune comédien incroyable et qui est crédible. Tu sais, en cinéma, ce que j'avais entendu dire, peut-être que je me trompe, tu me le diras, on dirait que tu mets pas des bâtons de Nairou, mais tu te mets des défis vraiment élevés parce que tu tournes avec des enfants, qui est une chose, qui est une situation difficile des fois de tourner avec des enfants et des animaux.
Ouais.
Fait que tu te fais des contraintes difficiles, puis dans deux de tes films, il y a des comédiens, puis des jeunes comédiens et des animaux. Comment c'est arrivé?
C'est vrai que pour Recrue, c'était quand même un gros défi, là, parce qu'il y avait, je pense, Édouard, il y avait 6 ou 6, il venait d'avoir 7 ans, genre, fait que c'est sûr qu'il était vraiment très, très petit. Ça me stressait beaucoup. Tu sais, j'avais travaillé avec Josquin dans Carré de sable, mais c'était plus facile ce que Josquin avait à faire, là, tu sais. Dans son Recrue, c'est un film sur l'extrême droite, puis c'est un enfant qui est témoin du comportement de son père dans une milice d'extrême droite. Puis il fallait qu'il joue des trucs assez intenses sur le plan émotionnel. Ben, on avait une excellente coach de jeu d'enfant qui est Ariane Castellanos, la comédienne principale de mon film Richelieu.
Okay.
Qui fait ça aussi sur le côté coacher des enfants. Ben, c'est beaucoup de s'assurer que l'enfant est confortable, s'amuse, puis de mon côté, c'est surtout d'apprendre à travailler à l'intérieur de ses limites. T'sais, je sais qu'il ne pourra pas... Si je lui demande de faire un monologue avec du texte très écrit, ça sortira peut-être pas comme je voudrais que ça sorte. Mais si je lui demande de réagir à ce qu'il voit, t'sais, je sais que je peux travailler avec ça. T'sais. Fait que c'est tout le temps d'apprendre. C'est la même chose de travailler avec des gens qui ont peu d'expérience en jeu, t'sais, que ce soit un enfant ou un acteur non professionnel qui a pas tourné souvent. C'est juste d'apprendre c'est quoi les contraintes, qu'est-ce que la personne peut te donner, puis pas lui demander de te donner quelque chose qui n'est pas capable de te livrer. C'est juste de travailler avec ce que la personne est capable de donner. T'sais. Puis c'était comme ça que j'avais travaillé avec Edouard sur Recru. Puis les animaux, ben ça prend ce qu'on appelle des wranglers, là, des gens qui dressent des animaux, qui sont okay. habitués de travailler. Mais c'est sûr que ça fait des défis là, dans Recru. C'était le plan séquence d'ouverture puis le plan séquence de la fin. C'est pas des très longs plans séquences, là, c'est des 2-3 minutes, mais 2-3 minutes où il n'y a pas de couple, là, c'est vraiment un seul plan. Puis on avait un enfant qui devait jouer bien, que son émotion soit juste. Puis on avait un chat qui devait arriver on cue à chaque fois. Fait que c'est sûr que c'est des défis, là, mais ça prend de la préparation. Puis il faut accepter qu'il faut faire plusieurs prises pour l'avoir.
Mais en tout cas, c'est très réussi. On dirait que le chat il est bien dressé pour ça. Là, parce que c'est ça, c'est des contraintes tellement difficiles là, quand les cinéastes parlent de travailler avec des enfants ou des animaux. Ben, c'est réussi. Puis là, t'as le père, justement, que tu en parlais, je pense que c'est Mike, le nom du personnage qui est joué par Jean-Nicolas Véro.
C'est pas le père.
Ah, c'est pas le père, c'est l'ami du père.
Ouais, c'est comme le leader.
Le leader de la gang d'extrême droite. Ouais. Ouais. Moi, je le trouve toujours bon pour jouer des rôles de, entre guillemets, mauvais, méchant, antagoniste.
Ouais.
Comment tu fais pour aller chercher un casting de comédiens qui ont joué au cinéma, à la télévision, pour leur proposer ça? C'est ta productrice qui les approche? Si tu fais un casting?
Ben, d'habitude, on ne fait pas de casting. T'sais, quand c'est quelqu'un comme Jean-Nicolas Véro, on écrit à lui ou à son agent, ou son agent, lui, il a une agente, en fait. Puis on propose le scénario, puis d'habitude, on a du feedback. Certains comédiens très occupés, que c'est l'agent qui fait un filtrage, voir si ça marche, si ça marche pas. Puis s'ils aiment ça, puis s'ils ont le temps, ben ils le font, puis tout simplement. Mais il faut qu'ils aiment le scénario. Ouais. C'est ça le truc. Puis ils savent, quand ils font du court-métrage ou du cinéma indépendant à moindre budget, ils savent que c'est pas avec ça qu'ils vont payer... C'est pas avec ça qu'ils vont gagner leur année au complet. Là, mais généralement, les comédiens qui travaillent beaucoup, ils essaient de trouver un équilibre aussi, de faire des séries télé, que ça, c'est bien payant. Puis une fois par année, ils vont faire un court-métrage ou un film que le sujet leur parle, où ils ont envie de travailler avec tel réalisateur, telle réalisatrice, tel producteur. Fait que c'est ça. C'est pas inaccessible. Je pense que quand le scénario il est bon, puis que ça clique, puis c'est le bon casse, ben, c'est tout à fait possible, même pour quelqu'un qui est à l'université. Puis il y en a plein des courts-métrages étudiants avec des grands, grands comédiens. Là, okay. Parce que souvent, les comédiens, premièrement, ils voient ça comme un investissement dans le futur. Là, oh, c'est ouais. Quelqu'un qui commence, qui a de la drive, mais ben, peut-être que dans 10 ans, il va faire son long-métrage, puis il va
les rappeler. Ouais.
Mais en même temps, ils ont des coups de cœur pour les scénarios aussi. T'sais.
Ben, en tout cas, tes scénarios sont solides, fait que ça doit pas être trop difficile de les convaincre. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Est-ce que tu écris le scénario, comme pour cet exemple-là, mais tu peux me donner un autre exemple, mais est-ce que tu écris le scénario en fonction de lui, je le verrais comme méchant, c'est vraiment lui, puis tu as un plan B, on lui dira pas lui faire de la peine, je pense pas qu'il écoute l'émission en matin, mais y a-tu comme, genre, c'est lui que je veux absolument pour tel rôle, si
des
je
fois,
l'ai
oui,
pas?
Oui, des fois, non. Ça dépend vraiment des projets, en fait. Des fois, mais dans le cas de Recru, ça faisait partie des gars que j'imaginais okay. assez tôt. Là. J'avais d'autres plans B parce qu'en fait, tu peux jamais comme... À moins que ça soit comme des gens que tu connais personnellement, les comédiens, puis que tu sais qu'ils vont le faire. Il faut pas trop s'attacher des fois parce que même jusqu'à la dernière minute, ben, ils peuvent dire « Ah, finalement, j'ai eu autre chose, je suis plus disponible, puis il faut que tu te revises sur un dessin. »
Ouais.
Mais ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets, par exemple, Richelieu, avec Ariane Castellanos, ben le personnage s'appelle Ariane parce que je voulais vraiment que ça soit Ariane, puis ça c'est une amie, tu sais, puis je le savais que c'était pour marcher ultimement, tu sais, que si on avait le financement, qu'elle serait disponible, puis que ça, elle le ferait, tu sais. Mais là, je suis en train de travailler sur un deuxième long métrage, puis volontairement, tu sais, j'imagine personne dans aucun rôle parce que je veux vraiment faire un casting puis trouver c'est qui la meilleure personne
pour jouer
ce rôle. Qui va peut-être même surpasser ce que moi j'imagine, tu sais, aussi, parce que ça peut être vraiment des belles surprises. Puis pour Richelieu, excepté les rôles de comédiens guatémaltèques, tu sais, on n'a fait aucun casting. Là. C'est tout des gens que j'ai dit, hey, ça te tente-tu de le faire? J'ai écrit ce rôle-là en passant à toi. Tu sais. Puis là, j'avais envie de voir, de faire ça un peu différemment pour mon prochain, parce que pour mes courts-métrages, j'ai fait ça aussi, tu sais, du casting pour... Il y a un autre court-métrage qui s'appelait Vétérane, là, sur les salons de massage érotique.
Ouais.
C'est là que j'ai rencontré Ariane, d'ailleurs, en casting.
Oui, on la voit brièvement. Oui,
ouais. Mais elle, je la connaissais pas avant, puis elle a auditionné pour ce rôle-là, puis elle m'a vraiment, tu sais, jeté à terre, puis on lui a donné un plus gros rôle dans le film pour ça, puis ça a fait en sorte qu'on s'est rencontrés, puis on a fait un film 10 ans plus tard ensemble, tu sais, qui est mon premier long-métrage. Fait que des fois, le casting, ça peut être payant aussi.
T'sais. Ben bravo d'aller chercher premièrement des acteurs qu'on voit pas souvent ou qu'on mérite de découvrir comme elle, parce que souvent, c'est tout le temps, pendant un bout de temps au Québec, on voyait tout le temps... les mêmes 10 comédiens ou comédiennes jouer dans tous les rôles. Puis ouais. ça devenait un peu redondant. Puis ça. Justement, parlons de Vétérane en 2017. Ben, tu l'as dit, c'est sur les salons érotiques de massage et tout ça. Et là, tu as le personnage de Camélia qui est joué par Sandrine Brisson, ouais. Qu'on a connue, nous, on est fans de Trogy. Fait que c'est la mère, là, celle qui crie, puis qui s'époumonne, puis qui capote. Très bonne. Et là, elle est dans ce court-métrage-là. Et encore une fois, elle nous étonne, elle nous surprend. Ouais. Quelle bonne comédienne.
Mais ça autant Carré de sable, je suis comme gêné un peu qu'on parle de ce projet-là. Vétérane, moi, je suis encore extrêmement fier de ce film-là. Puis oui, Sandrine, tu sais, moi, c'est une actrice que j'ai toujours admirée, tu sais, même dans les films de Robert Morin, je la trouvais extraordinaire. Puis là, elle a tourné dans Le Temps des framboises de Philippe Falardeau, où elle a comme vraiment, tu sais, un premier rôle, tu sais. Mais jusqu'à ce point-là, on la voyait souvent dans des rôles secondaires, tu sais. Puis moi, j'ai toujours trouvé qu'elle avait comme un naturel incroyable. Puis c'était un peu ça que je voulais faire avec Vétérane, tu sais, ce scénario-là, je l'ai écrit, puis je pensais à elle tout de suite, tu sais. Je voulais comme la mettre en valeur par le travail de la caméra, tu sais, puis la laisser shiner le plus possible, tu sais. Puis, ouais, je suis vraiment, vraiment encore très fier du résultat de ce film-là.
Et ça, sans être un spoiler, je remarque que tes courts-métrages, est-ce que c'est une... pas une contrainte, mais c'est-tu comme ta règle de base que faut que ça punche à la fin? Parce que il y a tout le temps, j'ai remarqué dans tes films, il y a tout le temps comme un revirement, il y a un punch, tu sais, il y a un début, un milieu, une fin, mais... tu arrives tout le temps là, avec un KO à la fin, surtout vétérane.
C'est sûr que tu veux une montée dramatique, là, tu veux un climax, tu veux pas comme que la scène la plus forte ça soit la première, puis après ça c'est it's all downhill from here. veux que ça monte, puis que la fin rentre dedans, c'est sûr. Moi j'aime ça les films qui brassent, là. J'aime ça me faire brasser quand je vais au cinéma, j'aime ça vivre des émotions, être choqué, pleurer. Fait que j'essaie que les films que je fais soient représentatifs de mes goûts finalement, puis effectivement pour un court métrage aussi, c'est comme une forme appropriée, c'est comme une nouvelle littéraire. Souvent dans les nouvelles littéraires,
c'est direct to the point,
puis il y a des finales inattendues souvent dans les nouvelles. Fait que je pense naturellement, j'écris pour que ça monte vers un climax. Là,
ah ben c'est toujours. Bon, j'aime ta comparaison de la nouvelle littéraire à un court-métrage. T'es déjà dans l'action. Il n'y a pas de... on va mettre ça, on va faire une prémisse, on va tout raconter, là, la psychologie avant des personnages. Non, t'es direct dans l'action. Ouais. Fait que si t'aimes ça, c'est ça que tu vas avoir.
Mais c'est même le défi du court-métrage, parce que pour faire un court-métrage qui marche, t'as pas beaucoup de temps pour générer de l'empathie, tu sais, que le spectateur ait de l'empathie pour ton personnage principal. Il faut vraiment que chaque plan soit significatif. Il n'y a pas de filler, là. Tu peux pas te permettre d'avoir des digressions. Il faut que tout soit cohérent. Puis c'est là, moi, tu sais, que j'en regarde beaucoup des courts-métrages encore, puis c'est là que tu distingues, OK, Et quand il n'y a pas un plan qui sert à rien, là, ça, c'est un bon scénario. T'sais, c'est bien ficelé, puis tu vois que okay, la personne qui écrit ça maîtrise ce qu'il fait vraiment. La contrainte, oui, je me l'impose un peu. Là, j'essaie que mes courts-métrages soient vraiment tendus, puis qu'il n'y ait rien qui serve à rien. Puis, c'est pas tout le temps un succès, là, mais c'est ça l'objectif.
L'objectif, oui. Est-ce que c'est toi qui fais le prémontage? Parce que là, tu parles que des fois, il y a des scènes de trop. Est-ce que tu fais un prémontage, puis là, après ça, il y a quelqu'un, un monteur ou une monteuse, qui passe en arrière de toi puis il coupe dans le gras encore une fois?
Ben les courts-métrages, c'est tout moi qui les a montés moi-même parce que okay. Je suis aussi monteur. En fait, là, quand j'étais à l'Université de Montréal, je travaillais aussi sur le côté comme monteur en télé.
Okay.
Fait que je connais les logiciels de montage puis tout. Puis les courts-métrages, c'est tout moi qui les a montés. Richelieu, j'ai travaillé avec Amélie Labrèche comme monteuse parce que là, c'était monter un court-métrage, ça va. C'est pas une charge de travail si grande, mais un long-métrage, c'est de la job en maudit. Surtout quand tu viens de te taper, tu sais, comme un 30 jours en ligne de tournage, puis t'es claqué. Là. Fait que je sentais que j'avais besoin comme de quelqu'un, tu sais, mais c'est sûr que j'ai une vision du montage, puis que je sais un peu. J'aime pas ça quand il y a des longueurs. T'sais, pas comme spectateur, mais comme cinéaste, moi j'ai envie que tout soit tête. Là, je veux pas qu'il y ait rien qui serve à rien, tu sais. Puis. C'est comme Richelieu, on prend un 10-15 minutes pour s'installer, mais une fois que c'est installé, on décolle. Puis ça n'a
pas le temps de niaiser.
C'est un feu roulant, puis ça avance tout le temps. Puis ça, c'est quelque chose auquel je tenais vraiment. Puis le film, au total, il fait comme... C'est 1h23, tu sais, avant le générique, mettons. Fait que c'est très court, c'est très condensé. Tu sais, je veux pas que ça soit trop long pour rien. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est tous des trucs auxquels je réfléchis.
Même on en aurait voulu plus.
Ben ça, on me dit ça parfois. Ouais, je sais pas si c'est une bonne affaire ou non, là, mais c'est clair que je préfère comme en retenir puis te laisser sur ta faim que de dire « Ah, il y a un 15 minutes de trop, tu sais, puis
exact.
Ou ça, c'est lent, j'ai regardé ma montre à tel moment, tu sais, je préfère que ça soit tête, là. »
Mais je suis 100% d'accord avec toi. Le montage, vu que tu sais, t'es réalisateur, scénariste, tu passes, admettons, une journée sur une scène, t'as fait plein de prises puis tout ça, puis t'arrives au montage. Ben, je sais que tu tournes pas pour le fun, pour rien, mais tu sais, quand il y a un autre monteur, dans ce cas-ci, c'est une monteuse, elle dit non, ça marche pas, on coupe ça. Est-ce que ça te fait de quoi? Parce que c'est comme...
Moi, je suis
où tu fais confiance que c'est pour le meilleur du film.
Moi, je suis le plus nazi envers moi-même pour ça. Je suis le premier à mettre la hache dans ce qui marche pas. Okay. Puis, comme même le premier assemblage qu'Amélie l'a fait, elle a tout mis ce qu'on avait. Puis, moi, je savais déjà ça, cette scène-là, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Je suis extrêmement nazi avec ça. Puis je pense que même à l'écriture du scénario, je suis le premier à dire « OK, ça, c'est trop long, ça marche pas, je coupe. » Puis t'sais, en anglais, ils disent « kill your darlings ». Même les trucs auxquels tu tiens. Là, souvent, la scène auquel tu tiens le plus, c'est elle qui pose problème, puis tu l'enlèves. Là,
c'est plus fluide.
Ouais. Fait que moi, j'essaie vraiment de me détacher le plus possible, d'être objectif, puis de ne pas réfléchir à « cette scène-là était difficile à tourner, fait qu'il faut absolument qu'elle soit là ». Non, si ça ne marche pas, si c'est plate, ça fait pas un meilleur film. Fait qu'il faut peut-être l'enlever. T'sais. Comme par exemple... Richelieu, la scène d'ouverture où on arrive en autobus puis on rentre dans la résidence, on l'avait tourné en un seul plan séquence. C'était ça l'intention, il n'y avait pas de coupe là-dedans. Puis au montage, on a décidé de faire des coupes parce qu'il y avait un long moment où on marchait jusqu'à la résidence. Il y avait 30 secondes de mou, il ne se passait absolument rien. Puis on le sentait quand on le montrait à des gens que les gens embarquent, c'est long avant d'embarquer dans le film. T'sais. Fait qu'on a décidé de couper, même si moi j'avais comme une intention de faire ce long plan séquence-là, très cinématographique, là, très une espèce de prouesse technique. Là, la prouesse technique, on s'en fout si tout le monde se fait chier. T'sais. Fait c'est mieux de couper dedans. T'sais.
Fait que t'es sans merci envers toi-même. Absolument. Et envers ton équipe.
Puis... Ouais, ouais. Okay. Faut faire le meilleur film possible. Ouais. C'est pas la réalisation de l'idée originale qui compte, c'est la réalisation du produit fini. T'sais.
Ben, on va attaquer Richelieu parce que là je vois qu'on en parle beaucoup. Mais dernière chose, t'as un autre court-métrage que j'ai vu que ça s'appelait Tala.
Ouais.
C'est la condition des travailleuses philippines chez des, on va dire, des riches ou des bien nantis.
Ouais.
Elle est logée et nourrie par la famille. Puis là, elle a besoin de sa fameuse lettre de recommandation de travail de ses employeurs.
Ouais.
Encore une fois, c'est un court-métrage qui finit avec un punch.
Ouais.
Tu as des acteurs connus comme Geneviève Rochette et ouais. Danny Gilmore.
Ouais.
Et la jeune comédienne qui joue à Tala.
Alistran, ouais.
Super bonne, elle aussi.
Ouais.
Encore là, dans les deux films, Tala et Richelieu, la fameuse lettre, on va en venir quand tu vas expliquer le scénario de Richelieu. Mais dans Tala, la fameuse lettre de recommandation des employeurs.
Ouais.
On dirait que ça aussi, c'est un thème un peu récurrent dans les conditions de travail de travailleurs immigrants.
Ouais.
Comment que c'est venu cette thématique-là un peu?
Ben ça, tu vois, je m'en souvenais même plus de ça, de ça, parce que ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu, Tala. Puis effectivement, il y a ce parallèle-là. La lettre vient jouer comme vraiment un rôle, c'est un enjeu dramatique dans Tala. Mais je me souviens que c'était juste en parlant à des femmes philippines puis des femmes qui prennent leur défense. Là. Il y a Evelyne Kalougué qui a mis sur pied un organisme qui s'appelle PINAI, qui nous avait fait, avec qui on avait fait une entrevue en 2013 à peu près, puis j'avais posé ces questions-là. Tu sais, puis c'est elle qui m'avait parlé de ça, de l'affaire de la lettre comme telle. En fait, c'est une lettre qui garantit qu'il la réembauche pour lui donner accès à la résidence permanente. Dans le fond, c'est ça dans Tala. Là. C'est pas tout à fait la même chose que dans Richelieu, mais c'est, ouais. Ça reste que comme l'employeur a le gros bout du bâton avec un bout de papier. Tu sais,
ouais, une espèce de chantage.
C'est ça, avec lequel carotte. Il peut utiliser ouais. pour faire du chantage. Puis, ben c'est juste le reflet de la recherche, finalement. T'sais. Puis, je pense que pour beaucoup de gens, ben ce genre de situation-là, ben beaucoup de gens qui arrivent à travers le programme des travailleurs étrangers temporaires, c'est un enjeu réel. Puis, le film reflète cette réalité-là. Fait que je pense que naturellement, je suis allé chercher ça comme enjeu dramatique dans le film.
Là, ça a très bien fonctionné. Danny Gilmore puis Geneviève Rochette. Sont détestables. Ouais. Encore une fois, il y a un enfant. Ouais. OK, ça aussi, encore une fois, le thème des enfants, puis encore là, elle est super bonne. T'as des castings en or. Elle aussi est détestable, la petite fille. Là. Elle est pareille qu'à ses parents, finalement.
Ouais. Mais ça, tu vois, ça aussi, c'est un film que je suis moins gêné que Carré de sable. Là. C'est sûr, il y a des maladresses et tout, mais c'est vraiment la naissance de ma démarche artistique, t'sais, plus telle qu'elle est maintenant. T'as là, c'est un seul plan séquence de 12 minutes. Il y a un peu de découpage à la fin, mais au niveau esthétique, ça ressemble à ce que je fais maintenant. Tandis que t'as là, c'est complètement... Carré de sable, c'est complètement différent dans la forme. Puis dans le fond, ben c'est littéralement le même sujet que Richelieu. Là. C'est le programme des travailleurs étrangers temporaires.
Ouais.
Fait que c'est un film que j'ai fait quand j'avais 23, 24 ans, mais dont je suis quand même assez fier aujourd'hui aussi. Là.
Est-ce que tu as fait beaucoup de documentaires ou est-ce que tu voulais faire un documentaire là-dessus? Puis tes informatrices, les personnes philippines, et c'était trop touchy, c'était trop dangereux pour leur propre travail ou embauche. On sent comme c'est plus facile de passer par la fiction, peut-être?
Ben, dans ce cas-là, dans le cas de Tala, j'avais l'intention de faire une fiction dès le départ, mais c'est vrai que c'est difficile de faire du documentaire sur ces sujets-là parce que généralement, les gens qui sont victimes d'abus ne veulent pas parler. Dans Richelieu, ça a définitivement été le cas. Là, toute la genèse de Richelieu, c'est après avoir fait Tala, j'avais ramassé beaucoup de matériel de recherche sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais du point de vue des travailleurs agricoles. Puis j'avais lu un prospectus de, je pense que c'est les TOAC, un syndicat de travailleurs, qui disait que c'était un terreau fertile pour l'esclavage moderne, finalement, là, ce programme-là. Puis j'avais envie de vérifier si ces allégations-là étaient vraies ou non. Puis là, j'étais allé pour faire un documentaire là-dessus, puis je posais des questions, puis j'essaie de trouver des gens qui voulaient participer, puis personne ne voulait parler.
Même en caméra, tu sais, en silhouette.
Mais moi, ça ne m'intéressait pas de faire télévisuel. J'avais envie d'apprendre à connaître ces gens-là. Puis... Fait que c'est à partir de ce moment-là que Richelieu est devenu vraiment une fiction parce que je savais qu'en documentaire, je ne serais jamais là quand ça se passe, les cas d'abus. La caméra ne sera pas là quand le boss vient pour exiger de l'overtime. Fait que aussi bien de passer par la fiction puis de vraiment raconter ce que c'est de l'intérieur. T'sais.
Une fiction qui a une esthétique documentaire. Bien, on va parler du film. Est-ce qu'on dans le temps, là, on est rendu où, mon cher?
33 minutes.
OK, bien, regarde, on va y aller en pause tout de suite sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Restez avec nous, on va parler du film incroyable de Richelieu après.
It's March, and you know what that means. It's les rendez-vous de la francophonie.
Check out rvf.ca to discover all the activities and contests happening across Canada.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Hi, this is Mika from Timber Tambor, and you're listening to CKUT 90.3 in Montreal. Awesome, very cool.
Sentiment d'impuissance face au pouvoir qui abuse à outrance. Les obus, les attaques imposent la doctrine du silence. Que le peuple danse, la machine de guerre qui danse. Que ceux qui n'ont rien, ils partagent le monde. Et ceux qui ont tout, ils baignent dans l'immonde. Marchons ensemble, fils et garçons, pour la révolution, pour l'amour de la paix.
Veille sur CKUT 90.3 FM. On vient d'écouter Grimmskunk avec les Insoumis. Ils seront en spectacle au Metropolis, MTLUS pour les nouveaux, au mois de mai. Allez voir ça, ça va garocher. On est en présence du réalisateur Pierre-Philippe Chevigny qui va nous parler du film Richelieu. Là, j'ai entre les mains, on va dire, le résumé du film. C'est nouvellement embauchée à titre de traductrice français-espagnole dans une usine employant des ouvriers guatémaltèques. Une jeune femme entreprend avec ces derniers une résistance quotidienne pour lutter contre l'exploitation dont ils sont victimes. Et là, dans la presse, on a Geneviève Bouchard, je ne sais même pas c'est qui cette journaliste-là, moi je connais les vues de la vieille, a dit « En vilain patron, Marc-André Grondin évite le piège, puis patati patata. » Très bon film, puis voilà toute sa force. On va parler du film qui a été réalisé au Québec avec une collaboration de la France, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est une coproduction Canada-France, finalement.
En 2023.
Ça a été tourné en 2021, fini en 2022. Ouais.
OK.
Ouais.
Puis c'est le processus entre le début de ton idée, la scénarisation, les demandes à Sodec, Socan, patati patata, combien de temps ça prend pour nos jeunes réalisateurs?
Oh, Seigneur. Ben moi, ça a pris 10 ans, là, entre l'idée originale, le début du processus, mais je pense que c'est un peu un cas exceptionnel. Là. Souvent, c'est un petit peu moins que ça. Mais règle générale, c'est minimum 4 ans, je pense, là, maintenant, là, pour, mettons, du moment où tu commences à avoir une idée puis le moment où tu sors le film, là, c'est en bas de 4 ans, je pense que ça se peut comme plus. Là, non. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ça a été comme un 5-6 ans de recherche. Après ça, un 3-4 ans d'écriture. Puis après ça, ça s'est financé relativement rapidement. Ça s'est tourné rapidement. On a tourné pendant la pandémie. On a attendu 1 an avant de le sortir à cause de la pandémie, à cause qu'on attendait d'avoir une première en festival. Puis après ça, à partir du moment où on a eu notre première en festival, mais là, ça a vraiment déboulé rapidement. Puis c'est sorti en salle en septembre dernier.
Fait que là, je comprends bien, le film était terminé, puis était sur les tablettes cachées en attendant.
Ouais, on était prêts en septembre 2022, puis on a eu notre première en juin 2023.
OK.
Fait que c'est comme 9 mois, dans le fond.
Qu'est-ce que ça fait pour un réalisateur? Ça doit te démanger.
C'est clair.
Peux-tu sortir? Là,
c'est clair.
Le bébé, il est né, je peux-tu le présenter à tout le monde?
C'est clair. Puis, on aurait pu probablement le sortir avant, tu sais, mais c'était plus question de timing. Puis, tu veux une première. C'est important d'avoir une première. Surtout pour un film qui est une coproduction avec la France. On regarde pas seulement, tu sais, la sortie en salle ici, il faut voir la sortie en salle là-bas, tu sais, fait que trouver...
Ah, c'est synchro? C'est en même
temps?
C'est
pas synchro, tu sais, mais pour eux, c'est important pour la France d'avoir une sélection dans un festival, parce que c'est comme ça que ça apporte du rayonnement sur le film et tout. Fait que c'est ça, tu sais, t'es pas... quand t'es en coproduction, faut que tu sois en communication beaucoup, parce que tes décisions peuvent désavantager la sortie française, fait que...
Et vice-versa.
OK.
Ben, j'ai beaucoup de questions par rapport au film. Quand on est allé voir le film, t'en as parlé, mais pour nos auditeurs et auditrices. Première chose, encore une fois, les comédiennes, Ariane Castellanos, comédienne, rechercheuse avec toi dans les documentaires. Où...
Elle a participé à la recherche. Ouais. Elle n'était pas recherchiste officiellement, mais je l'ai impliquée beaucoup dans la recherche parce que elle étant mi-guatémaltèque, elle avait déjà de l'intérêt pour ça. Puis sa mère aussi est impliquée, a toujours été impliquée dans la... Depuis comme le génocide en 1980, est impliquée dans la réalité sociale du Guatemala, finalement. Fait que je l'ai impliquée beaucoup dès l'écriture du scénario.
Ouais, c'est pour ça qu'il y a de la crédibilité dans ce film-là. C'est pas partie du néant.
Non, c'est sûr. On a travaillé fort pour ça, ouais.
Ben, félicitations. Comment, la question qu'on doit te poser 100 fois, c'est que tu as répondu après les comment qu'on appelle ça, question and answer après un film.
Ouais.
Ton approche du comédien très connu, Marc-André Grondin, comment ça s'est fait?
Ben, c'est ça, Marc-André Grondin, dans le film, il joue le rôle du patron.
Le
méchant patron, entre guillemets. Puis moi, justement, je voulais éviter le plus possible le cliché du mauvais patron. Puis il y a plein de comédiens québécois auquel on penserait dans le rôle d'un méchant patron, mais Marc-André Grondin, c'est pas lui.
Du name dropping.
J'ose pas. Mais tu sais, il y en a qui ont plus ce cast-là. Marc-André Grondin n'a pas ce cast-là.
Il joue des good guys.
Il joue des good guys. Puis, fait que moi, c'est ça. C'était une façon de déjouer le cliché du mauvais patron. Je voulais pas qu'on l'haïsse d'emblée. parce que dans le film, on fait quand même beaucoup de millage sur l'idée que c'est pas un seul individu qui est responsable, c'est le système lui-même qui mène les individus à prendre ces décisions-là. Puis le personnage de Marc-André Grondin subit énormément de pression de ses supérieurs, puis c'est pour ça qu'il en vient à agir comme ça. Fait que c'est important pour moi que le personnage évite le cliché, tu sais, fait que de casser Marc-André Grondin qui est relativement jeune, tu sais, pour avoir un poste de cette envergure-là, qui est charismatique, qui est beau, qu'on est habitué de le voir dans des rôles de good guy, on est habitué de s'identifier à lui.
Ouais.
Mais c'est une façon de ne pas l'haïr d'emblée. T'sais. On va apprendre à l'haïr au fil du film, mais c'est pas drette au moment où on le voit. C'est ça.
Mais j'ai un parallèle un petit peu à faire avec ça. C'est ça, comme tu dis, Marc-André est charismatique, il passe le premier rôle, le good guy. Ça me fait penser, là je recule, là, si ça fait les vieux cours de cinéma américain, écouter des Sergio Leone. Sergio Leone avait fait avec, il était une fois dans l'Ouest, Peter Fonda, qui était tout le temps un good guy, ou à peu près.
Ouais.
Puis c'était le bel homme, puis tout ça, le séducteur. Puis là, dans ce film-là, il joue le pire...
Dégueulasse
au monde.
Ouais.
Ben on dirait que c'est la même affaire que tu as faite, c'est qu'on a on aime Marc-André Grondin, all right, c'est cool. Mais là, plus ça va, plus on découvre qui est une mauvaise personne, mais qui est une mauvaise personne, mais t'as nuancé en faisant qu'on voit, comme tu dis, de la pression, puis dans quelle... Il est pris, là. Il a la tête sur le bio.
Moi, je dirais pas que c'est une mauvaise personne. Je dirais que c'est vraiment quelqu'un qui subit énormément de pression, puis que je pense que n'importe qui dans cette situation-là agirait peut-être de la même façon, tu sais, parce que c'est ça, notre système est ainsi conçu, les objectifs de rentabilité du capitalisme nous demandent de trouver plus, des solutions plus. Pour être productif, puis à un moment donné, il n'y a rien d'autre comme solution que d'exploiter le plus faible. Fait que c'est ça, puis je pense que le film essaie de dépeindre ce portrait-là plutôt que de dire que ben c'est juste parce qu'il est raciste, finalement, qu'il abuse des travailleurs, alors que c'est pas la réalité.
Puis, mais peut-être je me trompe, là, corrige-moi. Il met même, une manière, il donne l'exemple, parce que les travailleurs guatémaltèques, ils travaillent sur une industrie fermière, une ferme industrielle. Là, comme.
Une usine de transformation alimentaire où on transforme des légumes, finalement. Tu sais.
Exact. Puis, une manière, ben, il y a comme une espèce de puisard, une espèce de piscine d'eau qui s'accumule les déchets des fruits, des légumes. Et là, ça jamme et il montre que c'est pas compliqué. Puis il se met lui-même les deux pieds dans la boîte pour montrer que c'est pas si tough que ça, même si c'est un travail.
Moi, c'est important que ce personnage-là. Il a fait tous les jobs dans l'usine. Puis c'est souvent ça.
Il est monté dans la bouche qu'en haut.
Exactement. Puis il connaît, c'est son usine à lui. Il connaît tout. Il sait comment toutes les machines marchent. Puis lui-même, le personnage, il boite. Il prend des pilules parce qu'il a mal dans l'eau. Puis tout. Là, fait que lui-même, il est tout à fait conscient que c'est des
situations. Il est cassé par la machine industrielle.
Exactement. Puis, mais c'est ça. Je pense que ça aussi, ça reflète la réalité. Parce que souvent, les gens qui prennent l'expérience dans ces milieux, là, ils connaissent vraiment l'usine. T'sais, moi, j'en ai visité avec des boss, puis les boss, ils pouvaient partir toutes les machines, alors que tu penses que ce gars-là, c'est un cadre, il est dans le bureau, mais non, c'est un gars de terrain qui connaît sa patente. Là.
Il s'est déjà mis les mains dans l'huile, puis tout ça.
Exactement.
On l'explique-tu dans le film pourquoi le personnage du patron, il boite? C'est un accident de travail, j'imagine, mais...
C'est jamais dit explicitement, mais mon interprétation à moi, c'est vraiment parce qu'il a fait ces jobs-là pendant des années, puis il en est venu avec des problèmes de dos chroniques à force de pelleter et à charger du stock. Finalement, ce qu'il impose maintenant, c'est aux travailleurs étrangers qu'il fait venir. T'sais.
Il devrait avoir plus d'empathie vu qu'il a déjà passé par là. Quelqu'un qui n'a pas passé par là, c'est bon, c'est facile, tu es capable de faire ça, il n'y a rien là. Mais lui, il a passé par là, il sait que c'est une job tough.
En même temps, le fait qu'il est passé au travers aussi, il sait que c'est possible de passer au travers.
Ouais.
Sauf que peut-être ce qui était différent, lui, dans son temps, c'est que les objectifs de productivité n'étaient peut-être pas aussi intenses que ce que ses boss à lui imposent. Fait que là, il est obligé de mener la machine dans le tapis. Mais pour moi, c'est important de montrer qu'il connaît ça. Là, il sait ce qu'il fait.
Là, je ne veux pas te mettre dans le trou, mais j'ai remarqué que les nouveaux propriétaires ou actionnaires de la compagnie, l'histoire se passe au Québec, tout ça, dans la région du Richelieu, c'est des Français
Est-ce que, vu que c'est une coproduction Québec-Canada-France, est-ce que eux, quand ils ont lu le scénario, ça leur a posé un problème? Que...
Non, pas non? du tout. Non, pas en tout. Non, les producteurs, c'est même, je pense qu'en France, il y a une culture de la contestation plus forte qu'ici. Là, fait que c'est d'apprendre qu'il y a une multinationale française qui exploiterait des travailleurs, eux, ils n'étaient pas surpris de ça.
Ça les dérangeait pas.
Business as usual.
Hey, il y a là, je change complètement. Ben, bravo pour décrire très bien la réalité des travailleurs étrangers saisonniers. Dans ce cas-ci, c'est des Guatémaltèques. Ça aurait pu être des Mexicains. Je vois souvent au Mexique. J'ai des liens avec le Mexique assez fort. Et des fois, je prends l'avion pour aller à Mexico City. Et là, c'est la fin de... C'est début novembre, la fête des morts, 31 octobre. Et là, je voyage. Et là, je vois que l'avion complet, c'est des Mexicains qui ont travaillé au Québec et qui reviennent avec des télévisions, des chapeaux, des doudounes, des manteaux, des North Face. Que je me demande où est-ce qu'ils habitent au Mexique pour en avoir de besoin, même si dans le coin de Monterrey, il fait froid. Mais je veux dire, c'est en tout cas, c'est un phénomène que je vois souvent. Et je trouve que tu as très bien décrit la situation pénible, difficile. Ils sont pris aussi, eux, dans envoyer de l'argent à leur famille là-bas. Leurs femmes, leurs enfants sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 6 mois? Va leur permettre de vivre peut-être un autre 6 mois, un an, et faire vivre plusieurs personnes dans leur famille. Ouais. Fait que c'est vraiment un sacrifice humain pour ces gens-là. C'est d'une tristesse aussi.
Ouais, absolument. Puis moi, le film, un peu aussi, c'est sur notre culpabilité, notre complicité avec ce système-là, tu sais, parce que la posture d'Ariane, c'est un peu une métaphore du Québécois moyen, tu sais, qui se rend compte finalement qu'il profite de ce système-là. Ariane est là pour rembourser ses dettes, elle fait ce job-là, puis finalement, l'exploitation nourrit son confort, finalement. Mais c'est un peu à l'image de nous, comme Québécois, tu sais, si on va à l'épicerie puis que la bouffe est relativement abordable, bon, là, en ce moment, on est en période d'inflation, fait que c'est plus ou moins vrai. Mais théoriquement, tu sais, la bouffe est abordable parce qu'on
exploite des gens à quelque part, que ce soit en Baja Californie ou au Mexique.
Exactement. Pérou, whatever. Fait que nous, collectivement, il faudra peut-être qu'on se pose la question, tu sais, est-ce qu'on est vraiment à l'aise avec ça d'être complice, tu sais, parce que là, c'est pas genre des sweatshops au Bangladesh, puis c'est vraiment chez nous, là, tu sais, c'est dans nos champs. C'est des gens qui viennent ici, qui sont une main-d'œuvre captive, qui sont exploités, qui sont victimes de chantage. Nous sommes complices de ça. Est-ce qu'on est vraiment à l'aise avec ça? Moi, je suis pas à l'aise. En même temps, la solution, c'est pas de tirer la plug sur le programme des travailleurs étrangers temporaires parce qu'on en a vraiment besoin. Là. Si tu tires la plug du jour au lendemain, il n'y en a plus d'industrie agroalimentaire.
On
importe toute notre bouffe et il n'y a plus de ferme au Québec. Ouais. Fait que c'est une discussion compliquée. Puis ça veut pas dire non plus que c'est tous les travailleurs qui sont exploités puis que tous les fermiers sont méchants. C'est pas ça, mais toujours est-il, il y a un problème. Puis nous, on est complices d'un système d'exploitation, finalement. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on en discute au moins. T'sais.
Ouais. Puis au moins minimiser certains abus, puis qu'il y ait une certaine forme de protection envers les travailleurs étrangers.
Exactement. Comment on peut faire pour réformer le programme? C'est pas de tirer la plug sur le programme, c'est comment qu'on fait pour le réformer, pour que l'exploitation ne soit plus possible.
T'sais. Bien dit. Puis t'arrives juste à point avec ce film-là. T'sais, c'est un sujet d'actualité, mais là, tu me dis, ça fait 10 ans que tu travailles. Ton timing, t'es comme Nostradamus, là, t'avais une boule de cristal. Puis tu te dis, dans 10 ans, je présente ce film-là. C'est de ça qu'on va parler.
Ben c'est peut-être tant mieux, d'une certaine façon. Moi, c'est sûr que j'avais peur de la réaction. Quand je commençais à travailler sur le sujet, là, je racontais ça, puis les gens me regardaient avec les... Il y en a pas. Voyons donc, on est au Québec. Il y a une phrase texto, à un moment donné, la mère d'Ariane, dans le film, elle dit, voyons donc, on est au Québec, c'est pas des esclaves. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit souvent quand je racontais l'histoire du film. Voyons donc, les Québécois... Les Québécois, il y a deux générations, on était des porteurs d'eau. Là, on n'est pas des colonisateurs, t'sais. Whatever. Là.
Oh, ouais.
Fait que moi, ça m'a rassuré parce que j'avais peur de la réaction. Je m'attendais à me faire planter. Tu sais, puis finalement, l'actualité m'a rattrapé. Puis dans les 2 dernières années, on en a tellement parlé que la majorité des gens qui sont allés voir mon film en salle, il y avait déjà une certaine connaissance. Il y avait déjà entendu parler du problème. la plupart ne savaient pas que ça pouvait être aussi intense. Là. Mm-hmm. Souvent, c'est la claque parce que le film t'engage émotionnellement. Ce que le genre d'engagement émotif que tu n'as pas quand tu lis un article de journal avec des noms anonymes que tu ne connais pas. Un tel est mort, mais je ne le connais pas.
Presque un fait divers.
C'est ça, tu t'es déconnecté, mais quand c'est un film qui t'implique, qui t'engage émotionnellement, qui t'apprend à aimer les personnages, là, ça fesse plus dans le dash. Là. Mais tout le monde savait que ça existait. Fait que mon film est peut-être sorti au bon moment où ça peut peut-être devenir un peu plus un catalyseur pour la discussion parce que peut-être qu'il y a 5 ans, on m'aurait juste dit, voyons donc, ça se peut pas, puis c'est de la pure fiction, ça, c'est pas de même, ça marche, tu sais. Puis,
non, c'est un film de fiction, mais c'est très près du documentaire. D'ailleurs, ta caméra suit souvent de dos, admettons, le personnage d'Ariane qui rentre dans l'usine, on la suit de dos, elle a sa chaîne de travail, sa veste, son casque, ses lunettes, ses gants, et là, elle se promène, et là, on la suit, on entend là, les fameuses fans, comme tu disais, il y a pas beaucoup de musique dans ton film, mais là, pression, les bruits des machines, des ventilateurs, tout ça, c'est une forme de musique aliénante qui nous rentre dans le vif du sujet d'un travailleur, entre guillemets, exploité.
Oui, puis le son, on l'a traité souvent comme une forme de trame musicale. Les ambiances, les ventilations, les bruits de machines, il y a des moments où il y a des ruptures dans le film très, très, très abruptes, surtout si vous le voyez en salle. Là, si tu le regardes sur ton laptop, tu n'as peut-être pas le même effet. Mais si tu le vois en salle, il y a des ruptures de son très, très fortes. On passe d'endroits silencieux à tout d'un coup, on est dans le plancher des machines, puis la musique, la trame sonore est assourdissante. Puis on se servait de ça un peu comme on utilise la musique pour aller provoquer des réactions, faire sursauter, plonger le spectateur dans une espèce de mur de bruit qui est comme représentatif de la réalité. Mais là, dans le film, ça prend une qualité presque expressive là, parce que c'est tellement fort, c'est tellement enveloppant que tu ne peux pas rester insensible à ça.
T'es comme dans le ventre d'un monstre, et tandis que là, quand tu vas à la maison des travailleurs étrangers, ils sont tous dans une maison, comme on peut se l'imaginer, ils sont à peu près peut-être 40, 50, et là, faut qu'ils cohabitent avec des gens qui veulent, tu sais, ça fait de la friction et tout ça, et là, il y a une joie de vivre, t'as le personnage que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Louis Oliveira, ouais. Qui est un très bon comédien, pour moi, c'est comme un retour, je sais pas qu'est-ce qui se passe à la télé, puis dans les films, je l'ai pas vu dernièrement, mais je trouve qu'il apporte, même si c'est un petit côté baveux, son personnage, puis il est plus groundé de c'est qu'est-ce qui se passe réellement. Il y a un petit coup. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Manu Chao avec sa guitare, puis dans la cuisine, puis ils font comme un party de cuisine. Ça, j'ai trouvé. Justement, t'as montré les aspects négatifs, mais t'as très bien montré ce que j'aime de la culture latino-américaine en général, c'est la cohésion, c'est unidos, tu sais, unis, on va être jamais divisés. Cette chaleur humaine mm-hmm. qu'on a. Généralement les Québécois aussi, mais qu'on perd, on dirait, parce qu'on a, tu sais, on est latin nous aussi, on vient de la culture religieuse catholique, l'agriculture, tout ça, fait qu'on dirait qu'on retrouve une espèce de, tu sais, une soirée canadienne ou
ouais,
il y a ça.
Clairement, j'ai l'impression aussi que ça, c'était le résultat de comment ça s'est passé sur le tournage, tu sais, parce que c'était vraiment une gang de Guatémaltèques, tu sais, puis okay. Il y avait quelques Mexicains qu'on a virés en personnages mexicains. On voulait pas que ce soit des Mexicains qui jouent des Guatémaltèques, mais la majorité, c'était des Guatémaltèques, puis c'est des gens qui se connaissaient pas, mais qui sont devenus amis sur le plateau, tu sais, puis c'était vraiment un trip de gang pour eux autres d'être là. Tu sais, il y a une scène où c'est la soirée de la fait l'indépendance du Guatemala, puis là, c'est le party, puis les drapeaux sont sortis, puis tout. Puis on sentait vraiment que cette camaraderie-là qui est à l'écran était réelle dans les comédiens puis avec les figurants. Il y a vraiment un effet d'unité qui s'est créé sur le set. Puis tu sais, je pense que pour eux aussi, c'était cool parce que pour une fois, la culture guatémaltèque était représentée à l'écran au Québec. C'est comme ça, c'est rare. Bon,
première fois, t'as raison.
Ouais, ça, c'était authentique, là, je pense.
Là, comment on va dans le temps? C'est toi le maître chrono aujourd'hui, au 57.
Ouais.
Je veux te remercier. Moi, j'invite les gens à aller voir ce film-là, absolument, Richelieu. Pourquoi le titre Richelieu? Je sais que vas-y.
Le titre Richelieu, c'est pour la vallée du Richelieu. Ouais. C'est de, en fait, c'est là que j'ai fait ma recherche, mais c'est aussi de là où je viens. Okay. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de références à ce milieu-là, ne serait-ce que dans le niveau de langage, dans les expressions. Puis aussi, tu sais, moi, je voulais que les travailleurs à qui j'ai parlé se reconnaissent aussi, tu sais, qu'ils sachent qu'on localise un peu où est-ce que ça se passe. Puis aussi, le titre Richelieu, la sémantique, si, ouais. Si tu le regardes vraiment, tu sors du fait que c'est un toponyme, tu essaies de comprendre ce que ça veut dire. C'est le lieu de la richesse, finalement. T'sais. Puis je trouvais qu'il y avait un côté à la fois poétique et ironique là-dedans, parce que ça fait un peu écho à l'image que les travailleurs latino-américains ont du Canada. C'est le land, ben c'est pas ouais. le land of the free, là, mais ouais. c'est un lieu.
L'argent tombe du ciel.
L'argent tombe au Canada. Tu vas au Canada, tu reviens, t'es riche, tu sais, fait que ouais. ça renvoie un peu à cette image-là qui est fausse, évidemment.
Ouais, ouais. T'as remis les pendules à l'heure. Je vais te souhaiter, je sais que tu pars au Guatemala et au Mexique pour présenter ce film.
Demain.
Demain? Ah oh ben, ouais. Wow, merci d'être là aujourd'hui. Ouais. Si on est au Mexique, là, j'ai des amis au Mexique, à Mexico City, où est-ce que tu vas être? Où tu présentes ton
film? Ça va être à la Cinéthèque nationale à Mexico City. Il a déjà passé une fois en début de semaine, mais là, il repasse samedi le 2 mars.
Puis tu vas être là pour
je
en
Je vais
en
être discuter. Là avec Ariane Castellanos puis Gerardo Miranda, qui est un des comédiens aussi qui habite à Mexico. Fait qu'on okay. est là en fin de semaine, finalement.
Ben, bon voyage, bonne présentation, puis merci encore d'être venu. J'invite encore tout le monde à aller voir le film Richelieu. Un dernier mot.
Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être passé aujourd'hui.
Bien, merci à toi et écoutez les autres émissions le lendemain de la veille sur CKUT 90.3 FM. Ciao, ciao!
Pasa gente, siguen escuchando CKUT 90.3 FM. Mi nombre es Boca Floja de Quilombo Arte.
Hace 25 años lo coronaron Rey del Reggaetón. Tres generaciones han bailado su música. Don Omar. Don Omar en su nuevo show Back to Reggaetón. Si se habla de reggaetón, hay que hablar del Rey. Don Omar. The King is Back. Domingo 17 de marzo. Montreal. Blaze Bell. Boletos a la venta por Ticketmaster. Produce CMN.
Fuego Fuego, el festival de música latina más grande de Canadá, está de regreso con los artistas más populares del género urbano. No te pierdas a Maluma.
Ay, otro chisme más que te cae.
Raúl Alejandro, Mora, John Mico, Ivy Queen y muchos más. 25 y 26 de mayo en el Parque Olímpico de Montreal. Dos días llenos de fiesta, ritmo y sabor latino. Consigue tus boletos en festivalfuegofuego.com. Ya están a la venta.
Fade, Fercho Calipsis Tour 2024. En vivo en el Bell Center.